Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel nous allons parler d'un épisode peu connu, mystérieux et néanmoins passionnant de l'histoire de France, à savoir celui de la cagoule. Cela nous permettra de faire une petite piqûre de rappel concernant les ramifications qu'il y eut autrefois entre la cagoule et L'Oréal. Et bien entendu, comme vous vous en doutez, je dirai quelques mots du décès de Jorge Mario Bergoglio, le faux pape et vrai moderniste. Voilà. Alors avant cela, quelques petites annonces habituelles, comme vous le savez. Si jamais vous passez en Île-de-France, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la Librairie Française, au 202 rue Le Courbe. Voilà. Et la Librairie Française est un véritable lieu, un véritable bastion, je dirais, de francité. Et de plus en plus de conférences y sont organisées, chers amis. Il y a eu des conférences d'Alain Pascal. Il y en a une de votre serviteur que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal, qui est le Cercle catholique antimoderne. La conférence s'appelle « Le cédévacantisme, pourquoi ?» Voilà. D'ailleurs, Pierre-Tiron, si vous pouvez la mettre en description, ça serait sympa. Voilà. Ensuite, si vous cherchez mon bouquin, il faut également aller sur le site de nos amis du CSRB. Et comme vous le savez, chers amis, le CSRB vient de publier un petit missile. Pierre Tiron, est-ce que vous pourrez mettre, quand vous serez opérationnel, la couverture? Il s'agit, vous l'avez deviné, du dernier livre de Pierre Joly, « Catholicisme et dissidence, une alliance impossible ». Donc c'est une analyse de ce qu'est profondément la dissidence, et ça permet de voir qu'on ne peut pas être catholique et adhérer à ce mouvement. Voilà. Étant précisé que ce livre, enfin déjà, petite parenthèse, donc il est établi par A plus B que la dissidence est profondément un mouvement anticatholique et blasphématoire. Et une question est posée en arrière-fond dans ce livre. Pourquoi est-ce que les tradis ont massivement soutenu la dissidence et Alain Soral pendant plus de 15 ans? Pourquoi des prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X? Pourquoi ces bras droits médiatiques qui se disaient catholiques, mais en réalité qui étaient tradis, l'ont-ils soutenu? Sur quels critères? Pour quelle motivation? Voilà la question de fond qui est posée, je dirais, par cet ouvrage. Donc c'est un ouvrage qui est très riche en citations, en références, qui se lit assez facilement, d'ailleurs. Voilà, donc je vous invite à vous y intéresser. Vous pouvez vous le procurer notamment sur le site de nos amis du CSRB. Voilà. Ensuite, vous pouvez aller sur le site des éditions L'Estocade, le rendez-vous des vrais, si je puis dire. Voilà, donc on n'a pas trop de nouveautés ces derniers temps. Nous en aurons une, je l'espère, en juin. Mon livre sur Vichy va sortir et je pense que ça sera une bonne petite torpille, voilà, pour dire les choses simplement. Et je vous annonce d'ores et déjà que je ferai plusieurs émissions à son sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà. Beaucoup de mensonges à réfuter, beaucoup de vérités à restaurer. Voilà. Et à faire connaître aux Français pour qu'ils se forgent des âmes françaises. Ensuite, comme vous le savez, nous faisons des appels aux dons. Alors, vous pouvez aider des écoles. École Les Trois-Saint-Jean en Belgique, École Sainte-Expédite dans la région à Guingamp même, pardon. École Notre-Dame Auxiliatrice dans la commune de Béton. Et aussi, vous pouvez donner à l'école de Saint-Éloi en Anjou, qui est en train d'être constituée. Donc si vous voulez aider, je dirais, à la création d'une école catholique, eh bien, ma foi, n'hésitez point. Bon. Et vous pouvez aussi faire un don, pourquoi pas, à nos amis du monastère de l'œuvre de l'Étoile. Voilà. Alors aussi, publicité pour un pèlerinage au Puy-en-Velay, pèlerinage donc par des catholiques, c'est quoi les dates? Voilà, donc pèlerinage les 10 et 11 mai. Donc il y a des liens en description si ça vous intéresse, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. J'espère que je n'oublie rien, je crois que Alain Pascal fera une séance de dédicace à la Librairie Française. Mais j'ai plus la date. J'ai plus la date, désolé. Mais renseignez-vous, de toute façon, c'est sur le site de la librairie française. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Alain et à découvrir son œuvre. Alors, il y a une tradition aussi hein, dans cette émission, c'est que j'oublie des annonces. Donc là, j'en ai sans doute oublié, mais tant pis, c'est comme ça. Voilà. Alors, avant de commencer avec le gros sujet du jour, je suis évidemment contraint par l'actualité et je dois vous parler de la mort de Jorge Mario Bergoglio. Donc celui-ci est mort lundi, ce lundi. Je le précise pourquoi, puisque des conspis comme par exemple M. K nous disaient qu'il était mort depuis un mois. Non, il n'était pas mort depuis un mois, puisque il y a beaucoup de gens l'ont vu il y a encore très peu, et notamment le vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Bon. Jorge Mario Bergoglio était donc le sixième faux pape moderniste. Son pseudo-pontificat a été marqué par une forte accélération du modernisme. Après que celui de Benoît XVI avait été marqué, lui, par, non pas un arrêt, mais un ralentissement du modernisme. Cette accélération était-elle le simple fait du hasard? La réponse est non. Pourquoi y a-t-il eu cette accélération? Parce que les modernistes savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour tenter de détruire l'Église catholique, définitivement. Ils le savent. Donc, ils ont accéléré. Comment s'est manifestée cette accélération de modernisme? C'est très simple. Aux hérésies touchant à la foi, professées par les prédécesseurs de Bergoglio, les faux papes modernistes, de Roncalli à Benoît XVI Ratzinger. Donc, aux hérésies touchant à la foi, Bergoglio, je précise, enseigné, professé, défini, dans des contextes officiellement ex cathedra et qui auraient dû être infaillibles. Donc ces documents auraient dû être infaillibles si les intéressés avaient été de véritables papes. Bon. Donc Bergoglio a ajouté aux hérésies sur la foi les hérésies sur la morale. Et les hérésies sur la morale, ça se voit beaucoup plus et ça se comprend beaucoup plus facilement. Donc par toutes ces violations de la morale, Bergoglio a confirmé plus que jamais que la secte moderniste n'était pas l'Église catholique. À quoi fais-je allusion? Au moins à trois choses. Première violation de la morale, première hérésie en matière de morale, Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, qui est officiellement un document infaillible, puisque c'est une exhortation apostolique qui s'applique à l'Église universelle. Au titre de ce document, les concubins, les personnes qui vivent en concubinage, donc en état de péché mortel, ont le droit de communier. Voilà, ils ont accès à la communion. C'est une hérésie abominable. On ne peut pas dire à des personnes qui vivent en état de péché mortel d'aller communier, même si Bergoglio, dans le document, on nous dit qu'ils peuvent être en état de grâce, mais personne n'y croit très sérieusement. Vivre en concubinage, c'est un péché mortel. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Bon. Deuxième point, deuxième violation de la morale catholique concernant la peine de mort. L'Église catholique a toujours, infailliblement, défendu la moralité de la peine de mort. Toujours. Notamment dans le catéchisme du Concile de Trente, qui est un document infaillible. Or, que fait Bergoglio, entre guillemets, officiellement, dans son pseudo-catéchisme de l'Église catholique, document qui s'applique à l'Église universelle, théoriquement, Bergoglio condamne la peine de mort et il nous dit qu'elle est contraire aux évangiles et qu'elle porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Ce faisant donc, il accuse au passage l'Église de ne pas avoir respecté les évangiles et la dignité de la personne humaine pendant 2000 ans. Bref. Il y a d'un côté l'Église qui affirme très clairement un principe, et donc moralité de la peine de mort, et il y a très clairement de l'autre côté la secte moderniste, avec leur faux pape, qui professe la négation de ce principe, la prohibition de la peine de mort, l'immoralité de la peine de mort. Troisième violation de la morale, et celle-ci elle est absolument aberrante, Bergoglio parle du document Fiducia Supplicans, le 18 décembre 2023, autorise la bénédiction des couples homosexuels, c'est-à-dire d'un lien homosexuel, c'est-à-dire de l'homosexualité. Bon. Cette réalité est si effrayante, si écrasante, que lorsque j'ai débattu face à Mathieu Alvania à ce sujet, qu'a-t-il fait ? Il est revenu sur les propos qu'il avait tenus lors de son débat contre Arnaud Dumouche à ce sujet, et il a affirmé que le texte, même s'il était critiquable, restait dans les clous du catholicisme, parce que ce sont des personnes qui sont bénies, et non pas des couples. C'est totalement faux, c'est une pure négation du réel. Si vous allez lire Fiducia Supplicans et le document qui est censé le justifier, le document explicatif, dans les deux cas, on nous dit très clairement que ce sont les couples qui sont bénis, donc c'est la relation homosexuelle qui est bénie dans la secte moderniste. Je m'adresse à vous, le févriste. Vous qui tenez tant à dire que vous êtes dans la même église que Bergoglio. Eh bien, puisque vous êtes dans la même église que Bergoglio, puisque vous vous battez contre les sédévacantistes depuis des décennies pour dire que vous êtes dans la même église que Bergoglio, eh bien, votre église, qui est une fausse église, bénit l'homosexualité. Voilà, voilà le résultat. Donc Bergoglio, comme je vous l'ai dit, a prouvé maintes et maintes fois qu'il n'était pas pape. À cela s'est ajouté un grand nombre de choses. Bergoglio a canonisé, par exemple, un personnage qui n'a jamais été catholique, le nestorien Isaac de Ninive. Il a fait d'un personnage qui n'a jamais été catholique, le monophysite Grégoire de Narek, il a hissé au rang de docteur de l'Église, au même rang que saint Alphonse de Ligorie, que saint Robert Bellarmin, etc. C'est absurde. On se souvient de la collaboration covidique, où Bergoglio avait incité ses fidèles à se faire injecter un sérum expérimental, et on ne l'avait pas beaucoup entendu pour demander l'ouverture des églises en passant. On se souvient que Bergoglio était un ennemi de l'Europe. Combien de fois a-t-il alimenté la propagande pro-invasion ? Comme si l'Europe n'était pas suffisamment déchristianisée, il faudrait davantage l'afro-islamiser. Jusqu'au bout, Bergoglio a appelé à l'invasion du continent européen. C'était un ennemi de l'Europe, je le répète. Et on se souviendra aussi, concernant Bergoglio, de son incroyable propagande en faveur de l'homosexualité. Alors je sais, on va me dire, oui, mais dans les catéchismes, on critique encore un petit peu. Ok, vous critiquez encore un petit peu dans des catéchismes que personne ne lit, que le monde ne lit pas et que 99% des fidèles conciliaires ne lisent pas. C'est vrai. C'est vrai. Et encore, c'est pas aussi clair que ça. Mais bon, allez, on vous donne ce point. Mais le fameux « Qui suis-je pour juger » de Bergoglio a eu un effet absolument désastreux. Et ce « Qui suis-je pour juger » a été suivi de centaines d'actes homophiles. Donc Bergoglio a fait un boulot énorme pour la banalisation et la promotion des mœurs contre nature. Le catéchisme de Saint Pie X vous dit que les mœurs contre nature sont un péché qui crie vengeance devant Dieu. Bergoglio, lui, promeut ces mœurs et les banalise. Cherchez l'erreur. Et on se souviendra également de Traditionis Custodes qui a restreint, l'accès à la messe Saint Pie V. Bon, de vous à moi, c'était des messes invalides hein, la plupart du temps, puisque les clercs conciliaires, comme vous le savez, ne sont pas valides. Y compris les clercs Ecclesiadei, à l'exception des clercs qui viennent de la fraternité Saint Pie X. Voilà. Alors, ceci dit, c'est pas tant Bergoglio, m'a-t-on dit, qui avait poussé à cela, c'était plutôt Parolin, hein, son successeur potentiel. Voilà. Mais donc, ça fait un bilan qui est très très lourd, chers amis. Très 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 lourd. Pauvre Bergoglio. Pauvre Bergoglio, dans quel état était son âme ? Donc, pour le salut de son âme, chers amis, il faut espérer qu'il est abjuré. Il faut espérer qu'il ait abjuré et qu'il se soit repenti. Mais, me dira-t-on, la probabilité pour qu'il se soit repenti est quasi nulle. Pourquoi, chers amis, cette probabilité est quasi nulle ? Parce que Bergoglio pensait déjà être sauvé. Il l'a dit. Pourquoi pensait-il déjà être sauvé ? Pour une raison extrêmement simple, je vais essayer de vous retrouver les citations. C'est parce que la secte moderniste enseigne le salut universelle. Je vais essayer de vous retrouver le passage, laissez-moi quelques instants. Voilà, j'ai retrouvé la citation. Donc pourquoi la secte moderniste enseigne le salut universel ? Pour se sauver, il faut mourir avec la grâce sanctifiante. Et qui, comme son nom l'indique, est une grâce. C'est la participation de Dieu en nous, la grâce sanctifiante. Or, la secte moderniste, reprenant l'hérésie de Maurice Blondel, peaufinée par Henri de Lubac, qu'on retrouve dans Gaudium et Spes, nous enseigne que toute personne est unie à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute personne, naturellement, a en elle la grâce sanctifiante. Et donc, tout le monde se sauve. Voici là Jean-Paul II, l'a écrit dans plusieurs encycliques, mais il l'a dit encore plus explicitement dans un message à l'Asie, en date du 21 février 1981. Écoutez, chers amis. Dans l'Esprit Saint, chaque individu et tous les peuples sont devenus par la croix et la résurrection du Christ, enfants de Dieu, participants de la nature divine. Participant à la nature divine, ça veut dire en état de grâce. Donc il nous dit que tout le monde est en état de grâce. Et héritier de la vie éternelle, c'est-à-dire sauvé. Tous sont rachetés, appelés à partager la gloire en Jésus-Christ, sans aucune distinction de langue, de race, de nation ou de culture. Tout le monde est sauvé, nous dit Wojtyla. Et Bergoglio ne disait pas le contraire, puisque le 15 septembre 2021, de retour de Bratislava, il déclarait dans l'avion « Le Seigneur est bon, il sauvera tout le monde. » Ça, il ne faut pas le dire trop fort. Bergoglio pensait que tout le monde serait sauvé, donc il était persuadé lui-même d'être sauvé, malgré toutes les hérésies invraisemblables qu'il professait publiquement. Bon, il faut néanmoins espérer qu'il ait eu une sorte de sursaut et qu'il ait pu abjurer et se repentir. Il y a, chers amis, des précédents. Le premier précédent est Jean 23. Je vous cite un extrait de l'ouvrage que vous trouvez aux éditions Saint-Rémy, Nikita Roncalli, de Franco Bellegrandi, qui était camérier de KPDP, et qui a très bien connu donc Pie XII et le faux pape Jean 23. Bellegrandi n'était pas sédévacantiste. Donc quand il parle de Jean 23, il parle de lui en tant que pape. Que nous dit-il concernant la mort de Jean 23 ? Citation. Il est certain que sur son lit de mort, Roncalli a éprouvé du repentir. Ainsi que je l'ai écrit, quelqu'un a juré l'avoir entendu gémir de désespoir pour ce qu'il avait fait. Avant de rendre le dernier soupir, il exprima en termes très clairs sa profession de foi envers la religion catholique. S'il professe la foi catholique, ça revient à abjurer les hérésies qu'il a lui-même enseignées publiquement. Et il eut encore la force et la lucidité de donner une version dramatique de sa mort en disant, citation, « Je meurs sacrifié comme l'agneau ». Aucun de ses prédécesseurs, en réalité les vrais papes, tandis que Roncalli était lui un faux, sur le point de mourir, n'a vraiment cru opportun d'exprimer à haute voix une telle profession de foi. Parce que pour un vrai pape, la question ne se pose pas. Un pape à la fois par définition. Pour le moins singulière de la part d'un souverain pontife. Alors en fait, comme je vous l'ai dit, il n'était pas pontife. Et puis en disant « je meurs sacrifié comme l'agneau », à quoi voulait faire allusion l'agonisant ? Il y a un autre cas intéressant, qui est celui de Yves Congar. J'ai rencontré il y a quelques années de ça un fidèle lefévriste qui m'avait raconté lui-même avoir fait un jour une retraite spirituelle dans laquelle il y avait donc des sœurs qui s'occupaient, des religieuses qui s'occupaient des retraitants. Et l'une d'entre elles, qui avait discuté avec lui, s'était présentée en tant que nièce d'Yves Congar. Yves Congar, c'est l'une des personnes qui a eu le plus d'influence sur le conciliabule Vatican II. C'est lui qui a rédigé le plus de passages du conciliabule Vatican II. Eh bien, cette nièce affirmait que Congar avait rétracté sur son lit de mort tout le mal moderniste qu'il avait fait. Donc pourquoi pas ? Peut-être que Jorge Mario Bergoglio s'est repenti sur son lit de mort. Peut-être qu'il a eu un ultime sursaut. Peut-être qu'il a eu une grâce ultime qui lui a permis d'ouvrir les yeux. Il faut le lui souhaiter en tout cas. Voilà. Donc prions, chers amis, pour qu'il se soit repenti et prions pour le repos de cette pauvre âme. Voilà. Alors, pour la suite, un conclave, entre guillemets, va avoir lieu. Alors, à moins que la Providence ne remette les choses en ordre d'une façon ou d'une autre, eh bien, il faut espérer que le successeur de Bergoglio soit quelqu'un qui dissimule, pardon pour la répétition, aussi mal que possible le mal qu'il fait. Voilà. Bergoglio, justement, illustrait cela. C'est-à-dire que Bergoglio nous permettait grandement de... Enfin, voilà, avec lui, le modernisme avançait à visage découvert. Voilà. Donc il faut espérer, si, à défaut de rétablissement providentiel, il faut espérer que le faux pape moderniste qui lui succédera dissimule mal le mal qu'il fait. Voilà. Et ainsi, eh bien, ce mal sera plus simple à combattre. Voilà, donc Parolin est le favori de l'élection, de l'entre guillemets conclave. Du point de vue catholique, ce ne serait pas entre guillemets le meilleur candidat, puisque Parolin est diplomate et davantage enrobeur, si je puis dire. Voilà, un Ulrich, par exemple, ce serait parfait. Un Ulrich, un Zuppi, voire un Tucho, alors là, ça serait champagne. Hein. Là, ça serait parfait, entre guillemets, parce que là, les types ne peuvent pas se retenir et ils ne masquent pas, ils ne prennent pas la peine de masquer, enfin, de camoufler, je dirais, les hérésies qu'ils professent. Voilà. Nous verrons ce qu'il en sera. Voilà, Pierre Tirmont. Bon, on va arriver au premier gros sujet du jour. Nous allons aborder le cas mystérieux de la cagoule. Et nous devrions dire peut-être le complot de la cagoule, étant précisé que c'est Maurice Pujot de l'Action française qui a rebaptisé ainsi le mouvement, puisque le vrai nom de l'organisation, c'était le CSAR, Comité secret d'action révolutionnaire. Bon. Cette petite analyse nous permettra de comprendre les erreurs de la cagoule, dont l'une des principales est d'avoir eu trop recours à l'homicide. Pourquoi ? Puisque l'Église n'autorise l'homicide que dans deux cas. La peine de mort et la légitime défense quand c'est proportionnel. Or, la cagoule a fauté en appliquant l'homicide en dehors de ces situations. Rappelons tout d'abord, chers amis, le contexte dans lequel la cagoule est née. C'était un contexte de dépression pour le camp national et de grande crainte pour le pays. Pourquoi dépression pour le camp national ? Parce qu'il y a eu le 6 février 1934 ces émeutes contre la République, et le camp national a l'impression qu'il est passé à côté de l'événement, qu'il est passé à côté d'une opportunité historique. Et il y a énormément de rancœur à ce sujet, puisque le colonel de la Roque a fait semblant de participer au mouvement, c'est-à-dire qu'il a fait sortir ses troupes, mais il ne les a pas engagées très clairement, je dirais, dans l'insurrection. Et donc, sans ses troupes, les forces nationales n'ont pas pu prendre le Parlement. Donc, il y a beaucoup d'aigreur, de rancœur dans le camp national. En outre, suite à cela, la République, pour se défendre, a, je dirais, rendu l'existence légale des ligues beaucoup plus compliquée. Ce qui fait que beaucoup ont fait le choix de la clandestinité et d'autres ont fait le choix de l'institutionnalisation en créant des partis, comme par exemple, justement, le colonel de la Roque. Le pays est élu dans un contexte de crainte, car en janvier 1936, eh bien, des grèves éclatent. Mais pas n'importe quelle grève, des grèves avec occupation des lieux de travail, et parfois même avec séquestration des employeurs. Le Front populaire va signer les accords de Matignon début juin 1936 pour arrêter le mouvement, mais le mouvement va continuer. Et il va falloir tous les efforts de la CGT, et du Parti communiste, pour finir par éteindre les braises. Mais on n'est pas passé loin de la Révolution, et il y a une grande crainte donc dans de larges strates du pays, car le pays a légitimement peur du communisme. Pourquoi ? Parce que le communisme, partout où il est allé, partout le communisme a massacré, partout il a appauvri, et partout, c'est encore plus grave, il a persécuté l'Église. Dans cette atmosphère révolutionnaire, un général, le général Lavigne d'Alvigne, rencontre début 1936 Eugène Deloncle. Eugène Deloncle qui va vouloir fédérer les forces nationales. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre la pièce d'Eugène Deloncle ? Alors pour reparler de lui, qui est un personnage fascinant, il faut le dire, hein, Eh bien, je vais vous citer quelques lignes d'un ouvrage du colonel Groussard. Le colonel Groussard qui était un résistant. Donc c'est intéressant de voir que c'est un résistant qui parle. Bon. Citation. Eugène Deloncle, dont on a souvent parlé à tort et à travers, appartenait assurément à la catégorie de ceux dont il est permis de dire qu'ils ont un passé. Très intelligent, séduisant sous beaucoup de rapports, il était de surcroît courageux et cultivé. En son jeune âge, Maurassien fanatique, il avait milité vigoureusement dans les rangs des camelots du roi. Il était resté longtemps fidèle à cet idéal après la fin de la guerre de 14-18, où c'est un fait, il s'est magnifiquement battu. Alors, extrait de l'ouvrage de Philippe Bourdrel sur la cagoule au sujet de la guerre de Deloncle. Blessé, Deloncle est évacué du front le 28 septembre 1915 et est rappelé à l'école du génie maritime. Il est le premier de la promotion en 1917 et l'année suivante retourne aux armées malgré l'opposition du ministre de la Marne. Donc il y avait des planqués. Deloncle, c'est l'inverse. Lui, il fait tout pour revenir au combat. Il sert alors dans l'armée d'Orient comme officier d'état-major de son oncle, le général Grossetti. Il termine la guerre avec une citation à l'ordre de la 6e brigade d'artillerie le 2 juillet 1916 et chevalier de la Légion d'honneur. En 1922, il démissionne de ses fonctions d'ingénieur du génie maritime. La carrière la plus brillante s'offre à lui, ingénieur au chantier atelier de Saint-Nazaire. Il devient expert près de la cour d'appel de Paris pour les questions de navigation et siège comme administrateur dans 9 sociétés. Voilà, donc Comité central des armateurs de France, groupe de construction français de Hollande, etc. Eugène Deloncle est donc une personnalité compétente, écoutée et bénéficie d'une situation financière très importante. Il lui serait loisible de mener avec sa femme, la belle Mercedes, une existence des plus confortables, de grands bourgeois français, partagée entre son appartement parisien et sa belle villa du Touquet. Mais Deloncle a la politique dans les veines. Je dirais qu'il a la conspiration dans les veines. Donc, le colonel Groussard reprend. À vrai dire, cet homme était un aventurier né. Tout ce qui ressemblait à la monotonie, à l'embourgeoisement, l'étouffait. Et sans doute eût-il été un soldat splendide si on lui avait fourni l'occasion de combattre sans arrêt jusqu'au bout de sa course. Il se lança dans les affaires tout en continuant à militer au sein de l'Action française. Mais la marche du pays vers la gauche l'inquiétait de plus en plus. Il se persuada que si l'on n'intervenait pas d'une façon ou de l'autre, la France deviendrait à bref délai communiste. Or, tout ce qui était slave et de plus tout ce qui était marxiste, Deloncle avait une horreur physique, une horreur agressive et toujours prête à se concrétiser en actes. Au début de 1936, rompant en visière avec l'Action française et ses chefs qu'il jugeait trop mous, il monta une sorte de parti politique dont j'ai oublié le nom et qui ne groupa qu'un nombre infime d'adhérents. Ce fut après cet échec que, partant du principe que la puissance du communisme résidait dans son organisation semi-occulte, il eut lui aussi l'idée de constituer une force souterraine. Pensait-il dès ce moment à l'utilisation d'une pareille force pour passer à l'offensive et au moyen d'un coup d'État instaurer la monarchie en France ? Cela est très possible. Il avait un cerveau bouillonnant, les conceptions les plus variées s'y suivaient avec la rapidité de l'éclair et il ne possédait aucunement le sens des possibilités. Voilà. Donc Deloncle, je vous expliquerai ça tout à l'heure, finira par se faire arrêter. Il est libéré peu de temps avant la guerre, et pendant la guerre, il fait le choix des collaborationnistes de Paris. Donc il va créer un mouvement ouvertement collaborationniste, c'est-à-dire encore plus collabo, entre guillemets, que Laval. Il va être l'un des créateurs de la LVF. Et il va être créateur également d'un mouvement qui s'appelle le MSR, le Mouvement Social Révolutionnaire. Donc il va être vraiment à l'avant-garde, je dirais, du collaborationnisme. Bon. Mais il va finir par se rendre compte qu'il s'est trompé. Et il va se disputer avec ses amis du MSR. Il va prendre des contacts avec des membres de l'Abwehr. L'Abwehr, ce sont les services secrets allemands, dont une frange était anti-hitlérien. Et avec eux, il va essayer de négocier, je dirais, un gel du front de l'Ouest en vue de rabattre les troupes allemandes à l'Est, pour combattre le communisme. Voilà. Et donc de l'oncle va prendre contact avec les alliés, avec ces éléments dissidents de l'Abwehr. Il va faire des voyages en Espagne, etc. Il va finir par être pris la main dans le sac par la Gestapo. Et la Gestapo va donc vouloir l'emprisonner, voire même l'assassiner. De l'oncle va mourir héroïquement au début du mois de janvier 1944. Que s'est-il passé ? De l'oncle est alors chez lui, un matin, il dort avec sa femme. Un de ses amis, qui est également son secrétaire particulier, dont nous reparlerons, Jacques Corrèz, dort également dans l'appartement. À ce moment-là, il est dans la salle de bain. Et son fils, lui qui a 16-18 ans, est en train de prendre son petit déjeuner dans la cuisine. Quatre agents de la Gestapo entrent chez de l'oncle, armés de mitraillettes, par la porte de service. Le fils, qui voit quatre hommes soudainement débarquer avec des mitraillettes à la main, panique. Il se rue dans la chambre de son père. Un des agents de la Gestapo arrive à passer son bras à travers la porte de l'oncle et il tire à l'aveugle et il va toucher grièvement le fils de l'oncle. De l'oncle se rue sur sa table de nuit et il y prend un revolver. Il arrive à sortir de sa chambre et boum boum, il tue deux agents de la Gestapo. Mais un troisième qui était là va tirer une rafale de mitraillette et de l'oncle va mourir sous les coups de cette rafale de mitraillette. Le résistant Loustono Lacco commentait ainsi les événements. Il a été tué par la Gestapo qu'il trahissait et pour cela, parce qu'aussi il aimait passionnément la France, je le salue. Chapeau bas. Citation encore du résistant, le colonel Groussard, un petit instant. La vie trépidante d'Eugène de l'Oncle se terminait ainsi, en beauté, face à ceux qu'il n'aurait jamais dû cesser de combattre. Il mourait des mains des ennemis de la France, les armes à la main. Combien parmi ceux qui l'ont traîné dans la boue seraient capables de mourir ainsi ? Voilà. Donc, Eugène de l'Oncle a eu une mort héroïque. Et je ne vous cache pas que j'ai récemment prié pour le repos de son âme. Je ne sais pas où il est, mais voilà. Donc de l'oncle, à ce repas, vous disais-je, enfin cette rencontre avec le général Lavigne Delville, et il lui dit que voilà, il veut fédérer, début 36, les différentes forces nationales. Fin février, un dîner est organisé entre le général, de l'oncle et deux autres personnages. Le colonel Groussard, dont je viens de vous parler, et le docteur Félix Martin. Qui sont-ils ? Le docteur Félix Martin est un ancien camelot du roi, ancien combattant, qui fait du renseignement, notamment en liaison avec ce qu'on appelle le deuxième bureau, c'est-à-dire les services secrets de l'armée. C'est un conspirateur né, le docteur Martin. Il a une vie fascinante. Le colonel Groussard, comme son nom l'indique, est un officier, et il appartient, lui, au réseau Corvignol. Le réseau Corvignol, je tiens à le dire, est totalement distinct de la cagoule. Ce sont deux choses totalement différentes. Le réseau Corvignol a été créé par un membre du cabinet du maréchal Pétain pendant l'entre-deux-guerres, qui s'appelle le commandant Loustono Lacco, futur résistant, futur déporté au camp de Mauthausen. Et ce réseau vise à repérer les cellules communistes dans l'armée pour les dissoudre, pour les liquider. Voilà. Donc suite à leur dîner, un conseil supérieur va être créé avec de l'oncle, Martin, etc. Et de l'oncle, lui, après la victoire du Front Populaire, va créer le fameux CSAR, Comité Secret d'Action Révolutionnaire, qui est une nébuleuse de plusieurs groupes. Le docteur Martin nous disait à ce sujet que la cagoule n'était pas une société secrète, mais simplement une conjuration visant à mettre Pétain au pouvoir. Oui, le mettre au pouvoir, mais pourquoi ? C'était pas très clair. Certains voulaient une dictature militaire, d'autres une restauration de la monarchie. C'était pas très clair. Et ça, c'est la deuxième grande critique que j'ai faite à la cagoule, c'est qu'il n'y avait pas un but catholique clairement défini. Le seul but catholique en cette matière, c'est la restauration des vrais principes. Voilà. Là-dessus, il y avait un flou, il y avait une ambiguïté qui n'était pas acceptable pour un catholique. De l'oncle, lui, ne dit pas que la cagoule n'était qu'une simple conspiration. Pendant la guerre, il dira ceci, « La cagoule est une franc-maçonnerie renversée au bénéfice de la nation, qui se présentait en forme de société secrète convenablement, morcelée, séparée les unes des autres et s'ignorant les unes des autres. » Voilà. Alors, petite description de la cagoule par le journaliste Pierre Péan. Tous les membres sont tenus à un secret absolu. Y déroger, signifie la mort. Les cagoulards usent et abusent des codes, des mots de passe, pratiquent le cloisonnement. Des groupes de combat sont armés. La cagoule dispose d'un état-major au sein duquel le docteur Martin assure la collecte du renseignement et un comité directeur chargé de prendre toutes les décisions politiques importantes. Alors, qui sont les principaux personnages de la cagoule ? D'abord, Eugène Deloncle, donc Pierre Tiron, si vous pouvez remettre la photo. Il y avait le frère d'Eugène Deloncle, Henri. Ensuite, il y avait Jacques Corrèze. Donc, Jacques Corrèze, c'était l'ami de la famille Deloncle, le secrétaire de Deloncle. Pendant la guerre, il va intégrer la LVF. Et en décembre 1941, il sera devant Moscou. Il va revenir en France. Il va rejoindre Deloncle dans le MSR. Et à la libération, il va y avoir quelques problèmes. Il va faire quelques années de prison. Il sera libéré en 1949. J'oubliais, l'un des rôles de Corrèze dans la cagoule, c'était en gros de recevoir les serments de fidélité à l'organisation. Pardon. Mais donc, vous disais-je, à la libération, donc, Corrèze est condamné, il fait 5 ans de prison, et on ne va pas le laisser tomber. Puisque, en 1949, il va être embauché par Eugène Schuller, le fondateur donc de L'Oréal, pour être le patron de L'Oréal en Espagne d'abord, ensuite en Amérique du Sud, et ensuite en Amérique tout court, donc également en Amérique du Nord. Donc, Jacques Corrèze va être l'un des principaux personnages de L'Oréal. Et il va contribuer à faire exploser L'Oréal aux États-Unis. Et à la toute fin de sa vie d'ailleurs, alors qu'il était atteint d'un cancer du pancréas, eh bien, on lui reprochera son passé, et Serge Klarsfeld, notamment, l'attaquera. Ce qui vaudra une petite punchline que j'évoquais à Pierre Tirmont, mais qui n'est pas légale, donc je ne la répéterai pas à ce micro. Voilà. Donc voilà pour le personnage de Jacques Corrèze. Ensuite, autre personnage, Pierre Tirmont, Gabriel Jeantet. Gabriel Jeantet, qui s'occupait pour la cagoule du trafic d'armes. Jeantet va intégrer le cabinet du maréchal Pétain pendant la guerre, et de là, il va nouer des liens avec différents groupes de la résistance. Avec Pétain et des fractions de l'Abwehr, pendant le premier semestre 1944, ils vont essayer d'organiser un attentat pour éliminer Hitler. Et Jeantet finira déporté à l'été 1944. Ensuite, il y a Jean Fiol. Alors Jean Fiol, si vous voyez sa photo, vous voyez qu'on n'avait pas envie de jouer à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette avec lui. Hein. Ce n'était pas un blagueur. C'est un ancien camelot du roi, il avait un passé pénal assez fourni. Et la plupart des gens se mettent d'accord, enfin des chercheurs se mettent d'accord pour dire qu'il a lui-même assassiné un certain nombre de personnes lorsqu'il était à la cagoule, dans la cagoule. Pendant la guerre, Vichy, jugeant que Fiol est dangereux, le fait interner. Mais lorsque Vichy est éclipsé par l'état milicien début 1944, Darnan fait libérer Jean Fiol. D'ailleurs, Darnan, petite parenthèse, qui était lui aussi un membre de la cagoule, même s'il avait un rôle plus subalterne, je dirais. Et Fiol va s'engager dans la milice, et après la guerre, il va fuir la France, et il va refaire sa vie en Italie, et il va mourir, je crois, en 1975. Voilà. Ensuite, nous avons François Métainier. François Métainier était un industriel, mais son activité va finir par péricliter, et il sera en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de la cagoule pour négocier avec les Espagnols et les Italiens. Et il sera aussi l'organisateur d'un certain nombre d'attentats. Pendant la guerre, il va gérer un groupe paramilitaire résistant en 1940, qui s'appelle le GP, les groupes de protection. Et il sera de ceux qui contribueront à faire arrêter Pierre Laval. La Gestapo, lui sera payé, puisqu'il va faire près d'un an de prison. Bon. Ensuite, pendant la guerre, il va nouer quelques contacts avec la résistance. Et il va devenir un ami extrêmement proche à la libération d'un certain François Mitterrand. Et lorsque Métainier va mourir, en 1956, François Mitterrand se rendra à ses obsèques en sa qualité, enfin alors qu'il est, devrais-je dire plutôt, ministre de la Justice. Et enfin, autre personnage très important, bien nous avons celui dont nous avons déjà parlé, le docteur Félix Martin. Voilà, donc je vous invite à voir ses têtes. C'était quand même des sacrés personnages. Hein, voilà. Alors, on ne valide pas du tout tout ce qu'ils ont fait, hein, c'est pas du tout mon propos, vous l'avez compris. Mais à l'époque, vous voyez, on avait quand même des Français qui avaient des vertèbres. Hein. Voilà, on avait quand même des Français solides. D'ailleurs, de l'oncle avait une poignée de fer. Une poignée de fer. Et quand il voulait mettre un coup de pression à quelqu'un, il lui serrait la main et il lui disait « Nous sommes méchants ». Simple phrase, mais qui voulait en dire long, et il était pris au sérieux par son interlocuteur. Voilà. Alors la cagoule disposait de très puissants moyens financiers, puisqu'elle a été financée par une frange du patronat qui était effrayée par la révolution que je vous ai décrite tout à l'heure. Bon. Grâce à ces... Alors, qui étaient les principaux mécènes de la cagoule? Le premier, c'était M. Pierre Michelin. Je précise que la famille Michelin était une famille catholique hein, qui a beaucoup donné à l'Église. Ensuite, il y avait le Maigre du Breuil. Ceux qui ont écouté mes émissions sur Pétain le connaissent, puisque le Maigre du Breuil a été de ceux qui ont contribué à organiser le débarquement américain en Afrique du Nord en novembre 1942. Le Maigre du Breuil était à la tête des huiles d'olive Le Sueur. Pierre Tirmont, est-ce que vous connaissez les huiles d'olive Le Sueur? Bon, voilà, c'est assez connu, me semble-t-il. Voilà, donc les huiles d'olive Le Sueur, ça a envoyé du lourd à l'époque. Hein. Bon. Et le troisième, eh bien, c'est Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal. Voilà. Après, il y avait d'autres mécènes du patronat, mais ceux-ci étaient les trois principaux. Donc, grâce à tous ces moyens, la cagoule va mettre en place une véritable organisation paramilitaire. On va regrouper des personnes capables de se mobiliser, on va créer des dépôts d'armes à Paris, en banlieue, à la campagne, des dépôts d'armes très importants, avec parfois des mitrailleuses. Hein. Bon. On va créer des prisons secrètes, des postes de commandement secrets, on va créer des véritables stages, si je puis dire, d'instruction militaire. Donc c'est une véritable organisation paramilitaire. L'idée est la suivante, c'est qu'il faut faire un coup d'État préventif contre un putsch communiste, je dirais réel ou supposé. Et ce coup d'État vise à une occupation technique des lieux de pouvoir. C'est pour ça qu'on avait réuni ses troupes et ses dépôts d'armes. Et donc pour arriver à cela, la cagoule va faire toute une série d'attentats. L'idée, vous l'avez compris, c'est de créer un climat vraiment révolutionnaire. Bon. Alors quels sont ces attentats commis par la cagoule? Bon. Alors, le premier a lieu le 24 octobre 1936, et un trafiquant d'armes qui s'appelle Maurice Juif va se faire assassiner. Pourquoi? Parce qu'il travaillait avec la cagoule, mais il tapait dans la caisse. Voilà. Et ça, c'était pas très bien vu. Et son complice, début 1937, qui s'appelle Léon Jean-Baptiste, va également se faire assassiner, étant précisé que pour les règlements de compte, la cagoule tuait à coups de baïonnette. Hein, voilà. Ensuite, le 24 janvier 1937, la cagoule va faire assassiner le banquier franc-maçon et soviétique Navachine. Pourquoi? Parce que la cagoule, de l'oncle en particulier, va demander au maréchal Franchet d'Espéré des moyens financiers et militaires. Et pour tester leur détermination, Franchet d'Espéré leur dit bah, « Si vous êtes vraiment motivé, faites un crime de sang. » Et donc, ils ont désigné Navachine pour cela. Ensuite, il va avoir lieu un événement étrange le 17 mars, qui est ce qu'on appelle le drame de Clichy. Que s'est-il passé ce jour-là, à Clichy? Le colonel de Larocque organise une réunion publique dans un cinéma. Mais la municipalité étant socialiste, de gauche, eh bien, le maire, avec d'autres forces de gauche, organise une manifestation, une contre-manifestation, pour eh bien, justement s'opposer à la présence de Larocque. Les forces de l'ordre sont présentes pour éviter que la situation ne dégénère. De la Roque va sortir, et à un moment donné, parce qu'il y a des frictions entre donc les forces de police et les manifestants, et à un moment donné, un coup de feu va partir. Et là, ça explose en émeute. 6 morts côté émeutier, et à peu près 300 blessés. 2 morts du côté policier, et à peu près autant de blessés. Nous apprendrons par la suite qu'il y avait dans la foule de manifestants une vingtaine d'agents provocateurs de la cagoule, et c'est très certainement eux, ce sont très certainement eux, qui ont, je dirais, allumé la mèche. Voilà. Le 29 août 1937, la cagoule va détruire 3 avions qui étaient destinés à l'Espagne républicaine, c'est-à-dire à l'Espagne barbare, à l'Espagne fanatique, à l'Espagne intolérante, à l'Espagne tueuse de prêtres. Nous reparlerons bientôt, chers amis, de la guerre d'Espagne à ce micro. Le 11 septembre 1937, la cagoule fait un double attentat sous faux drapeau, puisqu'elle fait exploser 2 bâtiments de l'équivalent du MEDEF à l'époque, et ce, dans le quartier de l'Étoile. Donc, dans de très beaux quartiers, et malheureusement, 2 agents de sécurité vont mourir dans ces explosions. L'idée, c'était de faire croire que ces attentats avaient été faits par les communistes. Voilà. Début novembre 1937, un autre traître de la cagoule va être assassiné, un certain Louis Salé. Et mi-novembre, il va y avoir une tentative de coup d'État de la cagoule, qui est très peu connue, mais qui a été effective. Que s'est-il passé? Dans la nuit du 15 au 16 novembre 1937, Deloncle donne l'ordre aux troupes de se réunir au dépôt d'armes. Parallèlement, il essaie d'intoxiquer les antennes que la cagoule a dans l'armée pour leur faire croire à un putsch communiste. Et d'ailleurs, Deloncle, fin 36, avait rencontré Giraud, sans lui parler de la cagoule, bien sûr, mais Giraud lui avait assuré qu'en cas de putsch communiste, on pouvait compter sur lui. Bon. Le futur général Giraud. Donc, 2 leviers sont activés, mobilisation des troupes et intoxication de l'armée. Sauf que les officiers vont quand même se renseigner et ils vont bien voir qu'il n'y a pas de putsch communiste. Voilà. Donc, voyant que l'armée ne suit pas, Deloncle va demander aux troupes de rentrer chez elles. Ce qui va donner lieu à une très forte altercation avec le fameux Jean Filleul. Le 23 novembre, 8 jours plus tard, petite parenthèse, les membres de la cagoule étaient traqués depuis un certain temps déjà, eh bien, Max Dormoy, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, va divulguer au public l'existence du complot de la cagoule, et ses principaux membres, eh bien, vont être tous progressivement arrêtés. Et ils seront libérés, la plupart d'entre eux, je dirais, au début de la guerre. Alors, quelles critiques pouvons-nous faire de ce mouvement, chers amis? Le premier, je vous l'ai dit, un recours à l'homicide qui n'était pas acceptable. Le deuxième, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas d'objectif clair de restauration des vrais principes. Abolir un régime révolutionnaire pour faire un autre régime révolutionnaire, même autoritaire, ça ne sert à rien d'un point de vue catholique. Le problème reste. Bon. Et le troisième, je dirais que c'est une surestimation des effets du complot sur l'histoire. Je m'explique. À quoi sert-il d'occuper les lieux de pouvoir, militairement, si la population ne suit pas? À rien. Parce que contrairement à ce que pensent les conspis, on ne gouverne pas sans l'assentiment des gouvernés. Cette phrase est de Marcel de Corte. Le système actuel, par exemple, tient parce que du haut en bas de la société, une masse suffisamment importante de la population soutient le système, aime le système, adhère à ses valeurs. On l'a vu avec le Covid. Les gens ont validé globalement. Bon. Donc sans conversion des âmes et des esprits, chers amis, on ne peut rien faire de profond et de durable. Un complot ne réussit que s'il est l'émanation d'une partie suffisamment importante de la société. Autrement, un complot, c'est de l'eau sur les dunes du Sahara. Voilà. Donc une politique contre-révolutionnaire sérieuse, en premier lieu, vise à convertir les âmes et les esprits. Sans ça, on ne peut pas faire changer les choses en profondeur. Monseigneur de Ségur en a mieux parlé que moi. Disons maintenant un mot pour conclure sur ce sujet. Pour conclure, disons un mot des ramifications entre la cagoule et L'Oréal. Parlons d'abord du fondateur de L'Oréal, Eugène Schueller. Eugène Schueller vient d'une famille très modeste. Son père était cordonnier avant de devenir boulanger. Et Schueller est né d'ailleurs dans l'arrière-boutique de la boulangerie de son père, une boulangerie alsacienne, qui était rue du Cherche-Midi. Mais Schueller va être un étudiant extrêmement brillant, un étudiant en chimie, je précise, et il va trouver des procédés de teinture de cheveux. Il va créer L'Oréal et faire très rapidement fortune. Il va devenir également un ami d'Eugène Deloncle, et pendant la guerre, il va financer le fameux MSR, le Mouvement Social Révolutionnaire, mouvement collaborationniste. Bon. À la Libération, il va passer à travers la maille du filet, grâce à des témoignages de résistants, mettez des guillemets si vous voulez, hein, et notamment de François Mitterrand et d'André Bettencourt, qui auront chacun des retours d'ascenseur. Voilà. Mais Eugène Schueller, semble-t-il, n'avait pas tout renié, et il était, semble-t-il, fidèle en amitié. Puisque, comme je vous l'ai dit, après la guerre, eh bien, il va embaucher dans L'Oréal Jacques Corrèze après que celui-ci sorte de prison, ce qui était quand même un acte courageux, hein, à certains égards. Bon. Et Jacques Corrèze, donc ancien de la LVF, je le rappelle, va devenir l'un des personnages les plus importants de L'Oréal, et c'est lui, je le répète aussi, qui va faire exploser L'Oréal aux États-Unis. C'est grâce à Jacques Corrèze que L'Oréal pèse autant aujourd'hui dans le marché mondial. Schueller va également embaucher le frère de Deloncle, Henri, et l'un de ses fils, Louis. Il va embaucher aussi le fameux François Métainier, dont je vous ai parlé, qui avait arrêté Laval et qui avait organisé certains attentats de la cagoule. Et il va même embaucher, accrochez-vous, le fils de Jean Filleul, Jean Filleul le tueur, hein, dont on vous a montré la photo tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, c'était rigolo de rappeler ces liens entre L'Oréal et le complot de la cagoule. Voilà. Maintenant, nous allons parler, chers amis, de la suite, à savoir, enfin de la suite, peut-être que le mot est mal trouvé, nous allons parler de la synarchie. Alors, qu'est-ce que c'est, cette fameuse synarchie? Je vous avoue que moi, ça m'a beaucoup intrigué pendant très longtemps, tout cela. J'ai essayé de lire autant que possible sur le sujet. Selon la légende urbaine, la synarchie est une société secrète constituée en 1922 pour contrôler l'économie française en vue, accrochez-vous, en vue de s'en servir au bénéfice des intérêts juifs et anglo-saxons. Et la cagoule, nous dit cette légende urbaine, aurait été le bras armé de la synarchie. Jamais personne n'a démontré l'existence de cette société secrète. Aucun chercheur, aucun historien, et les protagonistes de l'époque l'ont tous nié. Mais Madame Annie Lacroix-Rise, communiste, faut-il le rappeler, nous assure, en se fondant soi-disant sur des archives, que le complot de la synarchie a bel et bien existé. Pourquoi, chers amis? Le grand combat d'Annie Lacroix-Rise est de masquer la trahison communiste pendant toute la guerre. Parce que les communistes n'ont pas seulement trahi, chers amis, pendant le pacte germano-soviétique. Après Barbarossa, les communistes ont continué à trahir la France de deux façons. Premièrement, en commettant des attentats contre des officiers allemands qui aboutissaient à des hécatombes en termes de représailles, et aussi parfois aussi qui étaient à l'origine de rafles de juifs. Ça, le système oublie de vous le rappeler, hein, généralement. Et aussi, les communistes, pendant toute la guerre, et je vais longuement en parler dans mon prochain livre, ont passé leur temps, enfin en tout cas les maquisards, ont massacré la population française. Je ne sais pas dans quelle proportion exacte véritablement, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans mon prochain livre, j'ai pris un journal collabo, de l'époque, le moins Colombo d'ailleurs, et j'ai relevé tous les attentats qui se produisaient chaque jour. Voilà. Et c'est effrayant, toutes ces familles françaises assassinées, tous ces paysans assassinés, ces maires assassinés, ces prêtres assassinés. C'est effrayant. Vichy a connu une vague de terrorisme phénoménale en termes de volume. Faut pas s'étonner que le régime devienne plus autoritaire, hein, à ce niveau, dans ce cadre-là. Bon. On vous parle jamais de ça, chers amis. On comprend pas l'histoire de Vichy quand on ne comprend pas ces vagues d'attentats qui n'avaient rien à voir avec la résistance véritable, qui ont ensanglanté la France. Et c'était des maquisards qui commettaient ces crimes. On va longuement en parler dans mon prochain bouquin, vous verrez. Et la troisième trahison des communistes, bah, c'est la libération. Vous savez qu'il y a eu une épuration sauvage qui a fait au bas mot 40 000 morts, donc plusieurs Saint-Barthélemy. Voilà. Voilà le bilan des communistes pendant la guerre. Trahison pure, massacre de civils, Saint-Barthélemy. Il faut masquer tout ça quand on est communiste, parce que sinon, notre soupe est invendable à la population française. Voilà. Donc, Annie Lacroix-Rise essaie de masquer cette trahison communiste. Et que fait-elle pour cela? Elle invente le mythe de la super trahison. Elle invente le mythe du super complot d'extrême droite qui permet de justifier l'attitude des communistes. Voilà. Et donc, il y aurait eu un complot d'extrême droite avec une partie du patronat visant à provoquer la défaite pour qu'il n'y ait pas de révolution. C'est du grand n'importe quoi, chers amis. C'est du grand n'importe quoi. Alors, l'affaire de la synarchie commence véritablement en février 1941, lorsqu'un homme qui s'appelle Jean Coutreau se suicide en se défenestrant de son appartement du 16e arrondissement. Jean Coutreau, je précise, était le directeur de cabinet d'un ministre du Front populaire et un polytechnicien qui était un haut fonctionnaire. Et donc, on trouve chez ce Jean Coutreau, après son suicide, un document étonnant qui s'appelle le Pacte synarchique d'Empire, qui raconte la genèse et les plans de cette soi-disant organisation secrète. Le premier à en parler publiquement est Marcel Déa, homme de gauche, collaborationniste, extrêmement même collaborationniste. Hein. Marcel Déa, donc, est le premier dans ses journaux, dans son journal, à dénoncer l'existence de cette société secrète qui est la synarchie. Quelques mois plus tard, un rapport, dont à ce moment-là on ne connaît pas l'auteur, tombe dans les mains du chef de la police à Vichy qui s'appelle Chavin. Et on va appeler donc ce rapport le rapport Chavin. Chavin n'en est pas l'auteur. Il était simplement l'un de ses lecteurs. Et dans ce rapport, on a encore plus de détails sur la synarchie. On a les noms des gars, etc. Bon. Et on nous explique les buts de la synarchie. Et là, la conclusion de ce rapport est claire. Vichy est infiltré par des agents judéo-anglo-saxons. Sacré scoop quand même. Hein. Sacré scoop. Bon. Alors, première remarque sur cette soi-disant société secrète, dont Annie Lacroix-Rise défend l'existence. D'abord, il est quand même étonnant qu'on ait retrouvé aucune trace, aucune archive, aucun témoin, aucun repenti. On a plein de traces de la franc-maçonnerie, des Illuminés de Bavière, de la cagoule. Mais alors, la synarchie qui est censée être un complot gigantesque, aucune trace. Rien. C'est tout de même étonnant. C'est le grand vide. Ensuite, ce quoi surfonde Annie Lacroix-Rise pour nous dire que la synarchie, ce grand complot d'extrême droite, a existé. Elle aime beaucoup parler de ses archives. Mais qu'est-ce que c'est ces archives en question? D'abord, il y a le fameux rapport Chavin. Nous verrons dans quelques instants qu'il était totalement inauthentique. Ensuite, elle évoque un article écrit en 1944 en Suisse par Dumoulin de Labartète, ancien directeur civil du cabinet de Pétain jusqu'au retour de Laval au pouvoir en avril 1942. Annie Lacroix-Rise reconnaît elle-même que dans ce texte, Dumoulin mélange le vrai et le faux, donc le truc n'est pas très certain. Mais ce qui est plus important encore, c'est que Dumoulin a écrit un livre qui s'appelle « Le temps des illusions », où il parle de l'archinarchie. Et que dit-il? Il dit que c'est un mythe qui n'a jamais existé. Voilà, la synarchie n'a jamais existé. Donc Annie Lacroix-Rise prend pour argent comptant une boule puante écrite sous pseudonyme par du moins de la Barthète. Mais ça ne vaut strictement rien. Cette pièce n'a aucune valeur probante. C'est ça les fameuses archives. Bon. Ensuite, Annie Lacroix nous dit qu'il y a aussi des notes des Hergé. Oui, des notes d'Hergé, mais les Hergé peuvent raconter n'importe quoi. Et ils ont raconté n'importe quoi. Dans une de ces notes, par exemple, qui date d'août 41 de mémoire, on nous dit que Jean Coutreau était cagoulard. C'est totalement faux. C'est comme si moi je vous disais Pierre Tirmont était cagoulard. Ben, c'est totalement faux. Voilà. Elle cite un autre document des Hergé de 1946, mais quand vous lisez ce document, vous voyez que les intéressés nous disent qu'ils ont eu leurs informations de la part de témoins anonymes. Ça ne vaut strictement rien. C'est pas sérieux. Donc c'est une base extrêmement mince pour affirmer péremptoirement l'existence de cette gigantesque conspiration. Bon. Bref, tout ça n'est pas très sérieux. Et petite parenthèse aussi, si on évoque les services de l'État qui ont cru à l'époque à l'existence de la synarchie, il faut aussi évoquer ceux qui n'y ont pas cru. Et au moment du procès Pétain, tout l'appareil judiciaire cherche des preuves de l'existence de cette synarchie pour démontrer qu'il y a eu un complot contre la République, parce qu'il veut faire passer cette idée-là. Et quand vous lisez les premiers interrogatoires de Pétain, la hiérarchie est mentionnée. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a eu ce complot contre la République, un peu comme Annie Lacroix. Sauf qu'ils n'ont rien trouvé, parce qu'il n'y avait rien. Alors qu'en est-il en réalité? Nous le savons pourquoi, parce que l'Abwehr, donc je répète, les services secrets allemands, à l'époque, en 1941, quand cette affaire a commencé à faire du bruit, ont enquêté pour savoir ce qui se passait en France. Voilà. Et qu'ont-ils découvert? Suite au 13 décembre 1940, Laval est évincé. Pétain le remplace par Flandin, à la tête du gouvernement. Les Allemands ne tolèrent pas Flandin, il met donc Darlan à la tête du gouvernement français en février 1941. Et dans ce gouvernement, la ligne collaborationniste D.A. Laval n'est pas présente. Elle est évincée. Bon. Donc Laval et les collaborationnistes vont chercher à faire chuter le gouvernement d'Arlan pour faciliter leur retour au pouvoir. Pour qu'on retrouve donc une équipe collaborationniste, enfin pour qu'on trouve tout court d'ailleurs une équipe collaborationniste au gouvernement de Vichy. Et c'est à cette fin que les cercles donc collaborationnistes de Paris vont chercher à discréditer Darlan devant l'opinion et qu'ils vont inventer la fable de la synarchie qui phagocyte Vichy pour les intérêts judéo-anglo-saxons. Sacré scoop, je le répète. En réalité, d'où vient le fameux document qu'on a retrouvé chez Jean Coutreau, le pacte synarchique d'Empire? L'Abwehr identifie que ce document vient en réalité des cercles proches de Fernand de Brinon, c'est l'ambassadeur de Vichy à Paris, qui était très collaborationniste. Donc ça vient des cercles de Brinon et de Laval. Et ce document, on découvre qu'il a été mis subrepticement chez Jean Coutreau. La personne qui a placé ce document chez Jean Coutreau, c'est un certain Gaston Guinot, qui est un ancien boxeur, et qui était proche justement du mouvement, le MSR. Guinot remet ce document à un ancien communiste qui s'appelle Charles Vioux, qui va le vendre à Pierre Nicole. Pierre Nicole, c'était un représentant de la petite industrie à Vichy. Et c'est l'un de ceux qui va le plus parler de la synarchie. Et ce même Guinot, Vioux, c'est probablement lui qui a transmis ce document du rapport Chavin et du pacte synarchique d'Empire, au fameux docteur Félix Martin qui lui va croire dur comme fer à l'existence de la synarchie. Bref, la synarchie, c'est un complot d'extrême droite qui n'a jamais existé et à la base, c'était une boule puante des milieux collaborationnistes de Vichy. J'aurai d'autres occasions, chers amis, de reparler de Madame Annie Lacroix à ce micro et pas forcément des termes élogieux. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce qu'il y a des questions, Pierre-Yves Tirmont, intelligentes, bien sûr. Oui. Si on n'a pas de zèle. Hein.
J'ai des questions, alors des questions plutôt du début de l'émission pour commencer. Renardous qui te demandait ce que tu pensais du cardinal Burke et du cardinal Müller.
Burke, qui porte bien son nom. Hein. Elle est bonne, celle-là. Hein. Ce sont des modernistes conservateurs. Voilà, donc peut-être qu'ils veulent conserver certains points de doctrine, mais ils restent modernistes, ils adhèrent à Vatican II, ils adhèrent à la fausse messe Paul VI, Müller même dit la fausse messe Paul VI, donc ils ne sont pas catholiques, voilà, c'est tout. Et ils ne sont pas validement ordonnés d'ailleurs, ni sacrés bien entendu.
Une question similaire de Papy 127, que faut-il penser de Mgr Roux et du père Michel Rodrigue ?
Alors à ma connaissance, celui qui s'est appelé Mgr Roux n'a pas été validement ordonné et sacré par Mgr Tuc. Il y a eu un document de proche de Mgr Tuc dans les années 80 pour expliquer qu'au moment où Mgr Roux prétend avoir été sacré par Mgr Tuc, dans le sud de la France, Mgr Tuc était à Munich. Bon, voilà. Donc a priori, il n'a pas été sacré. Voilà. Oui, dis-moi.
Non, pardon.
C'est moi, je finis.
Up in the Sky te demande si tu reçois régulièrement des propositions de débat face à des modernistes.
Non. Non, j'en ai pas. Non. C'est normal. Pourquoi, à votre avis ? C'est très difficile de plaider que 2 plus 2 font 5, hein, chers amis. Très difficile.
Et il y a une autre question. Il aimerait savoir si tu es apparu récemment dans d'autres émissions, d'autres chaînes YouTube.
Oui, j'ai fait un passage sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal.
Ouais,
enfin, vous savez, chers amis, c'est pas compliqué. Hein. Vous tapez mon nom sur YouTube, ouais. Vous trouvez les trucs. Hein. Et là, je vais peut-être faire une émission dont j'ai pas trop envie de parler pour le moment, mais sur une chaîne YouTube que vous connaissez tous. Mais j'ai pas envie d'en parler pour le moment.
Alors, c'est sur la chaîne Cercle catholique anti-moderne, pas
oui,
sur
oui,
Pascal.
Pardon. Autant pour moi.
J'ai mis le lien.
D'ailleurs, je vous invite à aller voir la conférence. Hein. Ouais. Elle est courte et j'ai essayé de la faire efficace et percutante.
Stéphane Michel, vous avez cité le grand thomiste belge Marcel de Corté. Qu'en est-il, dans quelques mots, de son rôle dans la tradition catholique ? Était-il ses débats ?
Je ne suis pas un spécialiste de Marcel de Corté. J'ai beaucoup aimé son livre « L'intelligence en péril de mort », qui est une très bonne critique du kantisme et qui démontre pourquoi, dans cette société kantienne, les médias ont une place grandissante. Voilà. Après, je ne suis pas un spécialiste de Marcel de Corté. À ma connaissance, il n'était pas nonnacum.
À nouveau Stéphane Michel, malgré les complotismes, que dire des sectes ésotériques dont faisait partie René Guénon ou Julius Evola, n'ont-elles pas au nom de la tradition?
Je ne connais pas le dossier précisément, mais ces sectes-là n'ont rien à voir avec la cagoule. Rien à voir. Ceci dit, Guénon, poubelle, Evola, poubelle. Voilà, en passant.
Et d'ailleurs, dans le livre des milieux catholiques.
Dans le livre, de Pierre Joly, il y a un chapitre consacré à Evola. Et c'est consternant de nullité, en fait. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de niveau. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contradicteurs qui sont dans le faux, mais qui ont quand même un minimum de niveau. Quoi. Mais là, c'est affligeant, en fait. C'est juste affligeant, et voilà. Affligeant. Un jour, peut-être que je ferai une émission qui s'appellera « Evola poubelle ». Voilà, tout simplement. Dernière question, peut-être, Pierre-Otiron.
Vincent Sarlat, j'apprécie beaucoup votre travail. Vous avez beaucoup révisé les cas de Maria Valtorta et Luisa Picaretta, mais jamais d'Anne Catherine Emmerich.
Je ne connais pas le dossier, donc j'en parle pas. C'est ça.
Voilà, dans notre cas, probablement.
Chers amis, je ne plaide que les dossiers que je connais. C'est aussi simple que ça. Et on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Donc, voilà. Mais je ne connais pas le dossier d'Anne Catherine Emmerich, donc j'en parle pas.
Ouais. Entendu.
Bon, je pense que c'est fini, Pierre-Tiremont.
Oui.
N'oubliez pas, chers amis, qu'il y a un pèlerinage catholique prévu au Puy-en-Velay dans le week-end du 10 au 11 mai. Voilà, donc le lien est en description. Et priez pour que mon nouvel ouvrage, qui je pense va faire mal à nos ennemis, sorte dans les meilleurs délais. Voilà. On se tient au courant, chers amis, et on se dit à dans 2 semaines.